Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue dans le Matin des musiciens. Nous recevons aujourd'hui de vieux habitués, Marina Schiche, qui n'est pas si vieille, mais qui est une vieille habituée. Bonjour Marina.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous arrivez de Berlin et vous repartez pour le Japon, je crois, c'est ça ?
C'est juste.
C'est parfait. Et vous allez jouer de la musique française là-bas, j'espère ?
Tout à fait.
Bon. Bonjour Florent.
Bonjour Jean-Pierre.
Et vous êtes avec nous ce matin pour la troisième et dernière sonate écrite par Claude Debussy. Il avait prévu d'en écrire six, et puis la maladie et la mort l'ont rattrapé. La troisième sonate, c'est la sonate pour violon et piano. Officiellement, elle est en sol mineur. Nous en écoutons par nos héros, je le rappelle, Marina Schiche et Florent Boffard, le premier mouvement Allegro vivo.
Thank you.
Merci Marina, merci Florent pour ce premier mouvement de la sonate de Claude Debussy, troisième et dernière sonate d'un groupe de sonates qui devait en comporter six. Alors la première est pour violoncelle et piano, on l'a traité il n'y a pas si longtemps. La deuxième est pour flûte, alto et harpe, ce qui est plus rare et on l'a traité il y a quelques années. Et la troisième aujourd'hui, troisième sonate, allegro vivo, puis intermède noté fantasque et léger. Le final est noté très animé. L'œuvre a été écrite d'octobre 1916 à avril 1917. Et c'est une œuvre qui est écrite dans le moment de la guerre. Et Debussy est par ailleurs gravement malade. Il va mourir le 26 mars 1918. Et dans l'été précédent, cette lettre à Paul Dukas, « Je suis entre mille ennuis et une douzaine de façons de terminer une sonate pour violon et piano ». Cette sonate a été créée tout de même un mois plus tard, le 5 mai, dans un concert qui a été donné au profit des soldats aveugles. Debussy n'a pas été très content du public. Et il y a un personnage qui était là, qui est un jeune compositeur qui s'appelait Francis Poulenc. Dans la salle Gaveau à moitié pleine, à son entrée en scène, on l'ovationna, puisque c'est lui qui jouait. Mais à la fin, les applaudissements furent tout juste de convenance. Et il avait été accompagné donc par Gaston Poulet, c'était au profit du foyer du soldat aveugle, et c'était donc une sonate qui, primitivement, il ne reste guère d'esquisse, mais primitivement, elle était prévue pour violon, cors anglais et piano. Et puis après, on sait qu'il devait y avoir une quatrième sonate qui n'a pas été écrite pour hautbois, cors et clavecin. Donc, c'est la guerre. Debussy est gravement malade. Il y a des ennuis d'argent. Il a commencé par accueillir la guerre de manière très nationaliste. Mais j'ai tout de même envie de vous lire cette belle lettre de 1916 à Robert Godet. Jamais les fortifications ne m'ont paru aussi laides. Les gens passent, les uns brandissent des cannes ridicules, les autres vêtus de ce bleu Joffre qui est bien le bleu le plus faux que l'on ait jamais trouvé. La guerre continue, comme vous le savez, c'est à n'y rien comprendre. Je sais bien que le final est dur à trouver, mais cette espèce de nonchalance guerrière a quelque chose d'irritant. La mort n'en continue pas moins à prélever son tribut aveugle. Quand donc la haine finira-t-elle? Et encore dans cette histoire, est-ce bien de haine qu'il faut parler? Quand cessera-t-on de confier le destin des peuples à des gens qui considèrent l'humanité comme un moyen de parvenir? Donc on voit que Debussy, qui souffrait beaucoup, tout d'un coup s'est aperçu que la guerre, c'était pas seulement une affaire sordide qui consistait à vider tous les étrangers. Voilà le paysage de cette sonate. Est-ce qu'on sent ça, à votre avis, dans cette sonate, ce caractère sombre?
Ben, je dirais que Debussy répond lui-même. Moi, j'ai une phrase, donc toujours à Robert Godet, où il dit « J'ai terminé enfin la sonate pour violon et piano. Par une contradiction bien humaine, elle est pleine d'un joyeux tumulte. Défiez-vous à l'avenir des œuvres qui paraissent planer en plein ciel. Souvent, elles ont croupi dans les ténèbres d'un cerveau morose. »
Bon, très bien. Vous avez quelque chose d'autre à apporter au dossier, Florent?
Non, évidemment, le dernier Debussy est ambigu, mais de toute façon, pour moi, il y a toujours une telle fraîcheur, une telle nouveauté, un tel renouvellement que c'est toujours évocateur d'optimisme.
Alors, ce qui est tout de même frappant dans cette musique, moi je l'ai entendue depuis que je suis tout petit, chaque fois que je la réentends, j'ai l'impression qu'à la différence de beaucoup de sonates où il y a une main gauche qui s'affole, je ne dirai pas à qui je pense, et un violon qui plane dessus, là il n'y a pas de gras du tout dans cette musique.
Bah, vous évoquez le fait que ce soit une sonate, déjà ce qui est étonnant en tant que tel chez Debussy, lui qui était si... finalement, contre des formes installées comme la symphonie, il dirait on ne peut plus écrire de symphonie donc, après Beethoven, et ce qu'il appelait les formules administratives. Ce retour à la sonate, qui est peut-être aussi à remettre dans un contexte plus de sonate en trio, au sens de sa sonate baroque, plutôt que sonate...
Comme la deuxième pour flûte alto et harpe.
Absolument, c'est celle que j'avais en esprit. Donc c'est déjà une relecture, mais c'est cette modernité, c'est un mélange de quelque chose justement d'extrêmement français. Il y a beaucoup de charme, une sensualité dans cette musique et à la fois une telle modernité du langage et de la gestion du temps.
Alors,
de la gestion
des formes. Une forme sonate ou pas? Il y a deux thèmes.
L'analyse dans ce genre de... Dans la musique de Debussy en général, je trouvais très, très réductrice. Et je trouvais elle n'a pas de sens. effectivement, on pourrait tirer des traits, Baliser. Essayer d'isoler la réexposition. Mais l'enchaînement des choses est tellement subtil, tellement tuilé, tellement...
Et tellement rapide, ça dure à peu près 4 minutes, le premier mouvement. C'est...
Il existe des exemples dans la musique de formes très, très condensées. Ça,
À l'époque, oui. Il commence à y avoir des gens en Autriche qui font des choses très courtes. que Debussy ne connaissait apparemment pas très bien. J'ai regardé dans le livre de François Le Sur. On pense qu'il y a une phrase à propos de Stravinsky où il dit qu'il penche du côté de Schoenberg, mais on n'a pas de trace vraiment, puisque sa bibliothèque a été dispersée. On ne sait pas ce qu'il a connu. Enfin, peu importe. Cette sonate, alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans sa configuration, Marina?
Commençons par le début, oui tout simplement, qui est vraiment une signature très très forte de cette sonate. Un cas particulier, je dirais, dans la littérature qui identifie quand même tout de suite cette sonate, donne le ton, c'est le cas de le dire, le ton en sol, mais avec une coloration, une ambiguïté dans le...
Un peu modal.
Modal, voilà, qui nous fait osciller dans une majeure mineure et suspendu avec une carrure à la 3-4, donc on est en valse, mais en émiol tout de suite, une espèce de valse, on pourrait dire déjà. Est-ce qu'on la rejoue peut-être?
Oui, ce serait bien de nous rejouer jusqu'à en serrant, par exemple. Alors ça, c'est l'énoncé du début. Quand je vois que sur la partition, c'est noté Allegro vivo, je n'ai pas l'impression d'entendre un Allegro, mais quelque chose qui s'installe. Et Debussy nous dit Dolce espressivo.
Absolument, c'est une... On ouvre, en fait, on plante un certain décor éthéré avant une mise en mouvement, où là, il va y avoir un geste beaucoup plus motorique. Mais c'est vrai que c'est un geste qui rappelle dans la littérature de violon et piano l'entrée de la sonate en sol majeur, de si sol, de Johannes Brahms.
Le début du premier mouvement de la première sonate de Brahms en sol majeur, opus 78, Joseph Suk et Julius Katchen. Alors, en effet, le violon se pose comme ça, mais il me semble que le discours debussiste est un discours qui passe son temps à esquiver, alors que Brahms, au contraire, s'installe, développe, chante.
C'est surtout cette organicité, en fait, du développement du discours et de la gestion du temps, dans un temps qui va se développer, qui élabore. Or, chez Debussy, on a cette culture du temps interrompu, comme on a longtemps pu opposer, en fait, notamment une forme de musique germanique avec une forme de musique française. Et Debussy, justement, c'est cette esthétique de l'interruption qui probablement déstabilise la perception. On est dans une écoute qui ne se base plus sur une prévisibilité, on est sur l'imprévisible, on est tout le temps surpris. Et c'est probablement ce qui fait dans cette forme très très brève une quantité d'événements. On est toujours dans un événement.
C'est ça qui fait qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'y retrouver dans Debussy. Moi j'entends encore des amis qui aiment la musique. Ravel, oui, parce que Ravel c'est classique, il y a des carrures, même si l'harmonie est sophistiquée. Mais Debussy, on est toujours. Il vous abandonne et puis il prend un chemin de traverse tout le temps.
Il ne nous laisse pas nous installer en fait.
Oui, oui.
Et ce qui est très étonnant aussi, c'est la virtuosité de l'utilisation des modes.
Oui, alors par exemple, parce que officiellement c'est sol mineur, mais c'est un sol mineur un peu bizarre.
Oui, on a probablement, on est sur un mode de ré, sur un mode de ré. Il nous surprend. En fait, tout le début de la pièce est quasiment exclusivement fait d'accords parfaits, donc a priori des choses tonales les plus clairement définies.
Absolument.
Et on est en permanence en train de les éviter avec des changements subis jusqu'à ce qu'ils nous infligent tout d'un coup une gamme par ton. On va se retrouver après avec un mode pentatonique. Et ce qui est sidérant, c'est la façon dont l'unité est préservée, alors qu'il jongle avec les modes de façon aussi inconsciente.
Et jongle, la chimie, il parle de jongle, chimie harmonique, voilà. Littéralement.
Il jongle d'autant plus qu'il jongle vite, quoi. Ça va très vite,
ça
tout
va très
ça.
Vite. Ouais.
On n'a pas ce temps où on s'installe.
Il y a une mobilité, en fait. Ouais. Une mobilité des motifs et une mobilité des couleurs et de cet aspect de ne pas pouvoir s'installer.
Alors, ce qui m'intrigue aussi, c'est l'écriture de violon. Est-ce que c'est écrit dans une manière qu'on va dire française, Fauré, Saint-Saëns, Franck, ou bien pas du tout? Parce que moi, ce qui me frappe tout de même dans le début, et ça met longtemps avant de monter tout en haut de la clé de sol, c'est quand même dans le bas du registre, souvent. Alors, de temps en temps, il y a des échappées vers l'aigu.
Il y a quand même pas mal d'échappées.
Oui, mais ce ne sont que des échappées.
Oui, mais justement, je pense qu'il la modernité aussi, il y a quand même beaucoup de gestes comme ça qui vont jaillir comme ça, et donc c'est vrai que ça donne une virtuosité. Le côté bondissant, tout ce staccato, peut-être on verra plus l'aspect violonistique dans le deuxième mouvement, où il y a vraiment des gestes très très codés, presque on pourrait dire, et datés, d'une certaine virtuosité violonistique. Là, j'avoue qu'il y a une utilisation du violon qui est des fois un peu dénaturé. Par exemple, dans le passage en rubato, je vais peut-être montrer un petit exemple, où là, on joue sur la touche.
Oui.
Par exemple, ça, je pense que l'effet sonore recherché n'est pas un son de violon, mais un son de flûte en sol, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'il a noté? Il a noté tempo rubato, et puis au piano, il y a
lusigando,
ce qui veut dire
enjôleur. C'est
enjôleur, oui. Parce que même si moi je perçois ça comme une musique sombre, mais pas vous, mais il y a quand même ce côté chat de Debussy, ce côté qui s'étire, qui se... Et alors, dans cette pièce où il y a marqué tempo rubato, quelle est la technique de violon utilisée là?
Tout simplement, c'est sur la touche, c'est sur la corde de sol. Donc, il y a une espèce de fermeture en fait, par le registre. Mm-hmm. Et en fait, il y a une partie. Alors, c'est assez difficile à atteindre pour des raisons, je dirais, pratiques et techniques, en fait, où l'archer peut cogner contre la caisse du violon. Mm-hmm. Mais il y a un endroit sur la touche où, en fait, si on touche le bon endroit, ça a vraiment le son d'une flûte en sol.
Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est que ça reste là encore dans le grave.
Oui, bah justement, flûte en sol. Et après, on a les harmoniques, mais il va y avoir ce passage par contre extrêmement éthéré dans l'aigu après. Peut-être on peut jouer ce passage, Florence, et après le chiffre 3.
Alors là, il me semble qu'on a un violon qui cherche quelque chose de, je dirais pas d'ethnique, mais d'oriental, d'espagnol, de... Non ?
Là, moi, à ce moment-là, je le sens pas... je le sens très modal et je le sens presque plus chant grégorien qu'ethnique hispanique. Mais par contre, à la fin,
oui.
ce thème va être complètement révélé dans un ibérisme débridé et même un côté cante rondo de chant flamenco. Avec le mode phrygien, enfin le demi-ton du deuxième ton. On peut peut-être...
Vous pourriez chanter aussi.
Je ne suis pas sûre pour les auditeurs de France Musique.
Bon, alors reprenez votre violon, Marina. Alors, ce passage-là, avec ce sol bémol répété, et puis se glisser sur un la bémol, c'est probablement assez espagnol, mais ça va apparaître beaucoup plus tard, sous une forme éclatante et explicite. Alors ça, c'est la fin du mouvement qui est d'inspiration ibérique, assez nettement. Et on peut penser que Debussy, qui a plus rêvé l'Espagne qu'il ne l'a connue, puisqu'il n'y est pas allé, il avait un ami qui, dans ces années-là, en 1914, écrivait ceci. C'était la première des chansons populaires espagnoles de 1914, donc de cette période, de Manuel de Falla, et c'était María Barrientos, la soprane, avec le compositeur Manuel de Falla au piano. Alors, une conclusion sur ce premier mouvement, Marina, Florent ?
Un dernier commentaire sur la capacité de Debussy d'interrompre le déroulement du temps. Et en fait, quand on parlait de la forme sonate, c'est peut-être par le défilement du temps qu'il donne un sens à la structure de la pièce. Et c'est intéressant d'en prendre conscience à l'écoute. On se rend compte qu'après un début qui est assez actif, très surprenant dans la variété des modes et oui. L'apparition des motifs, tout d'un coup, il installe une stabilité quasiment en figeant l'harmonie sur un accord en plus qui est en soi instable. Sur lequel le violon fait le motif qu'on a entendu tout à l'heure, un petit peu inspiré de la flûte, alternant avec des séquences faites de quintes à vide qui sont un peu labyrinthiques.
C'est bien pour le violon.
À nouveau sur cette harmonie dans un autre ton, mais aussi statique. Les quintes, et puis carrément, on s'installe sur l'accord, sur la quinte à vide, enfin, sur lequel il nous fait entendre ce thème un peu très, très évocateur, un peu hispanisant. Et là, le retour de l'action, de l'activité du début, se fait par une espèce de sortie d'un rêve, puisqu'elle est très progressive. À la fois, on garde l'atmosphère statique. Et puis soudain, le violon. Et en fait, cette partie centrale qui est complètement inactive est très, très étrange. Et peut-être c'est aussi une des choses qui peuvent désarçonner à l'écoute la pièce, mais c'est chargé d'une poésie tout à fait.
Et ce retour, ce serait le moment de réexposition d'une pseudo-sonate.
Et il n'y aura pas.
Voilà. Donc il habille cette...
Alors, si vous voulez bien, on va passer au deuxième mouvement qui est noté fantasque et léger. et c'est noté intermède, parce qu'au fond, il n'aime pas tellement les premiers mouvements, deuxième mouvement. Il faut toujours que ce soit un intermède. On trouvera ça ailleurs dans une autre sonate. Et on vous écoute, Marina Schisch et Florent Boffard, dans le deuxième mouvement intermède. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes répétées, et puis du pids. Enfin bon, on va découvrir un autre violon et un autre partenariat entre le piano et le violon. Le deuxième mouvement intermède, fantasque et léger, de la sonate pour violon et piano, la troisième des sonates de Claude Debussy, par Marina Schisch et Florent Boffard. Alors, fantasque et léger, fantasque, ça n'étonnera personne d'avoir cette indication, et léger, ça indique quoi, léger? La matière musicale?
Le ton, probablement, la légèreté du ton, et puis aussi une certaine virtuosité qu'on a tout de suite, en fait, dans l'emploigne du début, aussi bien que dans l'arabesque de la fin. Mais peut-être penchons-nous un tout petit peu sur le début, parce qu'au niveau violonistique, c'est vrai que c'est très marqué. On a ces arpèges du début, ces bariolages cadentiels, qui sont très codifiés. On pourrait presque entendre la cadence du concerto de Mendelssohn. Je vous en fais un tout petit bout, histoire de vous remémorer.
Vous me refaites le début jusqu'au point d'orgue, par exemple. Mendelssohn, vous me dites concerto, mais c'est marqué ad libitum quasi cadenza. Et il connaissait son répertoire violonistique par cœur, mais il n'aimait pas Mendelssohn, il disait que c'était un notaire. J'avais compris qu'il avait eu des problèmes avec les notaires, mais les notaires ne jouent pas forcément de violon. Alors...
Mais un autre geste, en tout cas, dans l'écriture violonistique de Debussy, on va avoir beaucoup de pizzicato, donc ce côté un peu guitare, là aussi, on reste dans quelque chose d'hispanisant. Et je pense que ça vaudrait la peine d'écouter, par exemple, ce prélude de Debussy transcrit par l'auteur pour violon et piano. Le minstrel.
Minstrel, c'est dans le premier livre des préludes et cet enregistrement d'Alfred Cortot et Jacques Thibault date du 7 juin 1929. Donc, ça gratte. Minstrels, c'est le 12e des préludes du premier livre de Debussy. Ici, c'était Alfred Cortot et Jacques Thibault. Et alors, il y a trois versions pour violon et piano. Alors, je pense que c'est celle de Debussy qu'il a faite en 1914, et plus précisément le 17 janvier 1914. Et puis, il y en a deux autres, mais je pense que c'est celle-ci qui est celle de Debussy. Alors, évidemment, quand on entend ça après avoir entendu le mouvement intermède fantasque et léger, on sait que c'est de la même inspiration. C'est assez surprenant de voir que cette pièce, qui est à l'origine une pièce pour piano, devient une sorte d'esquisse pour une pièce pour violon et piano du même compositeur, avec les mêmes les notes répétées, les pids, ce motif espagnol. Florent.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas son habitude. Mais c'est réalisé avec tellement d'élégance et tellement d'humour et de finesse. C'est vrai que c'est probablement fait suggérer par un violoniste, mais c'est,
oui, oui,
ça me paraît être quand même original,
pas oui, doute. Oui, oui.
Et puis cet esprit, cette ambiance qu'on retrouve dans les préludes, on peut également illustrer la partie scherzando avec d'autres préludes. Peut-être on pourrait jouer, Florent, l'apparition du scherzando.
Alors, apparition du scherzando, c'est le violon qui est doux et expressif, c'est ça?
Non.
Il arrive avant?
Oui, entre le chiffre 1 et 2.
Alors ça, c'est le premier passage scherzando. Il y a un deuxième passage scherzando où le violon est doux et expressif, où tout d'un coup le personnage ou les deux personnages ne se rejoignent plus tout à fait. Alors vous aviez envie qu'on écoute Général Lavigne excentrique parce qu'il y a encore quelque chose comme une chorégraphie dans cette pièce de Debussy. Il y a définitivement beaucoup de relations entre le deuxième mouvement de cette sonate de Debussy pour violon et piano, en particulier le passage scherzando, et ce général Lavigne excentrique, qui est le titre excentrique est en anglais. On sait que Debussy était anglomane, c'est dans le deuxième livre des préludes, et cela fait référence à un acrobate américain qui s'appelle Edward Lavigne, qui s'est produit à Paris au Théâtre Marigny en 1910, et donc c'est une référence à cela. On peut penser aussi qu'il est fasciné, comme Igor Stravinsky, par les automates, les pantins, il y a Petrouchka dans l'air tout de même. Peut-être qu'il y a des choses communes entre ces deux musiciens. Peut-être comme ça, c'est une rencontre. Mais en tout cas, certainement, Debussy avait, à ce moment de sa vie, retrouver peut-être un peu de l'esprit d'enfance à cause de sa fille, je ne sais pas. Mais il y a certainement tout ça dans cette musique qui se ressent, enfin.
Oui, et puis il y a Marina. Des aspects très, très différents, justement. Il y a cette verve d'humour ironique qu'on vient de voir, très motorique, très piquante, staccato. Et puis on a aussi des passages extrêmement suaves. Une vraie sensualité, peut-être qu'on peut dire à la française, je ne sais pas. Et on pourrait l'illustrer dans le deuxième passage, Scherzando, où là, qui est marqué doux et expressif.
Ah, mais c'est celui-là que je voulais avoir
sans
tout
regard,
à l'heure.
On vous le donne, Jean-Pierre, tout de suite. Et puis, qui est aussi nommé tout à fait dans cette époque, dans une manière de porter les notes, au sens de portamento, comment on relie deux notes avec beaucoup de glissade.
Un glissé très, très beau. Toujours ce deuxième mouvement fantasque et léger. Alors c'est drôle parce qu'on a le piano qui est scherzando et le violon qui se déhanche de manière un peu canaille.
Absolument. Et là j'aimerais vous faire entendre une pièce d'Eugène Ysaÿe.
Oui.
Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte d'interprétation. On a des oreilles maintenant très épurées, très stérilisées, je pourrais dire, par le disque, le CD, mais aussi de changements de goût d'interprétation. Et c'est vrai que c'est une époque où on ne se prive pas de glissades, de portamenti, qui viennent bien sûr de l'inspiration vocale de l'époque.
Et puis peut-être un peu du violon tzigane. Debussy avait beaucoup aimé, quand il était en Hongrie, d'écouter les musiciens qui, sachant que c'était ouais. Debussy, ils ont voulu lui jouer sa musique. Il a dit non, jouez-moi de la musique.
Probablement, mais de toute façon, je pense que c'est assez lié. Mais moi, j'y vois quand même quelque chose d'extrêmement vocal. Là, on est dans de la mélodie. Et dans cette pièce de d'Ysaÿe, qui s'appelle Rêve d'enfant, là, c'est vraiment une épiphanie de la glissade.
Eh bien, glissadons, si on ose ce terme.
Thank you.
sais que c'est très inconfortable. Florent Boffard me faisait signe qu'il était devant un feu. Oui, ça ressemble un peu à un feu. C'était Eugène Isaïe, Un rêve d'enfant, opus 14, avec Michael Mann et Marcel Van Gaal. Ça a été enregistré en 1931. Mais effectivement, ça gratouille un peu. Pardon pour les oreilles fragiles, mais on a quand même une idée d'un type de violon,
langoureux.
Un peu, oui. Mais qui n'est que langoureux. Ce qui est fascinant dans la sonate de Debussy, c'est qu'on a le côté langoureux, le côté scherzando, le côté acrobate. On a tout en même temps.
C'est la définition de l'ironie. C'est-à-dire que finalement, il y a un jeu de masque et on ne sait finalement pas là où Debussy. Enfin, il est sincère partout ou il est moqueur partout. Bon. Rien n'est au premier degré, probablement.
Alors, puisque cette sonate est une sonate pour instrument à cordes, vous avez envie, Marina, qu'on écoute aussi le mouvement lent de la sonate pour violoncelle et piano, qui est la première sonate en mineur aussi, et c'est noté sérénade, modérément animée. Et vous avez choisi que nous entendions Maurice Gendron avec Jean-Français au piano. La sérénade de la sonate en ré mineur, la première sonate de Claude Debussy par Maurice Gendron et Jean Français, enregistrée en 1964. Alors, je ne peux pas vous dire vraiment comment nos amis musiciens Marina et Florent ont réagi à l'écoute de ça. Ça fait très kitsch aujourd'hui de jouer comme ça. Ils ont l'air très réjouis, ils sont très contents de leur coup tous les deux. Plus personne n'ose ce genre d'extravagance, si, Marina ?
Oui et non, j'ai envie de dire. Mais je trouve que c'est bien, en fait. On a beaucoup de chance d'avoir ces documents. De ne pas oublier qu'évidemment, le goût change avec les modes, les générations, etc. Et donc, dans une idée de faire une version authentique d'époque, ça nous donne quand même, c'est des sources très précieuses. Après, voilà, on ajuste avec notre goût et puis aussi la partition, parce qu'il y a une certaine liberté rythmique là aussi, comme soulignait Florent.
Jusqu'où on peut aller trop loin dans cette musique ?
C'est exactement ça. Ouais.
Bon, c'est un peu la question, puisque vous avez dit que c'était dans l'ironie et dans l'esquive, et c'est un tout petit peu le sujet de cette sonate aussi.
Mais à ce sujet, je voudrais juste souligner cet aspect intéressant au niveau compositionnel et interprétatif de Debussy, que Dutilleux a formulé par cette phrase. Il a dit « c'est la rencontre inespérée de l'intelligence contrôlée et de l'instinct ». Et je pense que de garder ça en tête quand on construit son interprétation sur Debussy, c'est assez valable. Parce que justement, d'avoir toujours ce souci de transparence, d'intelligibilité du texte qui est d'une...
Oui, il est très écrit. Oui, il est écrit.
Extrêmement composé. Oui. Et à la fois, de ne pas perdre de vue cet aspect instinctuel, sensuel, de résultat atmosphérique.
Ça veut dire qu'à ce moment-là de sa vie, vous l'avez dit, Florent, à propos du premier mouvement, du caractère statique de l'harmonie, cet homme avait une boîte à outils harmonique et instrumentale qui était prodigieusement raffinée. Ouais. Alors, ça n'a peut-être pas l'air comme ça parce qu'on rigole et qu'on entend parler de scherzando et de blagues un peu, comment dire, un peu de potache, de sensualité. Mais il y avait tout ça dans cette musique. Il y a tout ça. Et ça dure quoi ? 12 minutes, cette sonate.
Et la boîte à outils est considérable, mais ce qui est le plus extraordinaire, le plus admirable, c'est la façon dont il organise le discours, qui est extrêmement pensé et prémédité, évidemment, mais qui, à l'arrivée, est quelque chose qui se réinvente à chaque fois.
Bon, alors, si vous voulez bien, maintenant qu'on a scruté quelques-uns des mystères du deuxième mouvement, on va passer au troisième mouvement. Et puis, je rappelle là, à l'occasion de ce troisième mouvement, que dans sa correspondance, qu'il faut lire, elle est passionnante, la correspondance de Debussy, eh bien, il y a cette lettre que je citais tout à l'heure, « Je suis entre 1000 ennuis et une douzaine de façons de terminer une sonate pour violon et piano. » Ce qui est une manière, encore une fois, distanciée, ironique et, comment dirait-on, très grand siècle, de dire « je n'arrive pas ». Il est arrivé quand même.
Il y est arrivé et ce qu'on peut souligner, c'est probablement la manière de souder le troisième mouvement, c'est l'utilisation d'un retour, en fait, d'une forme de cyclisme, même si quand on dit cyclisme, on pense tout de suite à Franck. Mais là,
il détestait Franck.
Exactement, mais c'est un procédé qu'il a utilisé très puissamment dans le Quatuor à cordes. Et là, je ne sais pas, à mon avis, c'est plus anecdotique, je ne sais pas comment Florent le perçoit. Mais on peut peut-être en tout cas le jouer, le spectre du premier mouvement.
Non, vous allez le jouer en entier d'abord avant de jouer un spectre, Marina.
D'accord.
Si vous
à
voulez
vos ordres,
bien,
Jean-Pierre.
Nous vous écoutons dans le final, très animé, qui commence dans une légèreté lointaine, c'est l'indication, pianissimo à 3-8, et le violon n'entre pas tout de suite, et quand il rentre, il est sur la touche, et c'est dolce sostenuto. Donc il y a aussi, alors on rigole parce qu'on regarde ça de toutes les manières qu'on peut regarder, mais il y a aussi beaucoup de tendresse dans cette musique, évidemment. Elle est cachée parfois elle n'est pas visible, parfois elle s'habille des vêtements un peu refaits de César Franck, mais enfin, ça c'est vous qui le dites, Marina. On vous écoute dans le final de la sonate de Debussy. Thank you. le troisième et dernier mouvement, le final très animé de la sonate de Debussy. Et vous ne pouvez pas savoir, comme c'est un plaisir, si vous pouvez peut-être le deviner, d'entendre nos musiciens arriver dans la dernière mesure. C'est difficile à faire, Marina, ce sforzando là.
Je dois avouer que la dernière harmonique est très capricieuse. Et donc, il est assez régulier qu'on finisse un concert larché en l'air, mais on n'a pas sorti de son.
Mais là, vous l'avez sorti.
Bon. Et oui.
C'est bien. Il pourrait écrire une autre sonate de Debussy. Alors, ce mouvement est un mouvement qui me paraît, je ne sais pas si c'est une impression, peut-être plus virtuose que les autres.
Oui, parce qu'en fait, il y a un motif qui tourne sur lui-même, qui est motorique et qui essaye de s'échapper. Donc, d'un point de vue compositionnel, je veux dire, de la tournure mélodique, effectivement, ça génère une virtuosité, du coup, instrumentale.
Oui, mais il y a aussi des passages sur la touche, quasi trémolo. Il y a des recherches instrumentales, tout de même.
Oui, et puis, surtout, je dirais, pianistique, il y a des gestes très... des signatures.
Par exemple.
Laurent ?
Dans le tournoiement, le mouvement perpétuel, il y a évidemment la référence à mouvement dans la première série d'images qui est... Bref, ce tournoiement ternaire est récurrent chez Debussy.
Et ce qui est intéressant, c'est l'indication du début que je trouve vous avez très bien respecté, c'est le pianissimo du piano avant que le violon n'arrive, c'est léger et lointain. Et pourtant, ce n'est pas staccato, c'est lié plutôt. Et comment on fait pour être léger ?
Techniquement, c'est parfois un peu...
C'est difficile, non ?
Les pianos ne sont pas toujours d'accord avec les pianistes. Donc,
et les pianistes ne sont pas toujours d'accord avec les compositeurs, disait Debussy à la fin de sa vie, qui ne supportait quasiment plus personne. Mais bon.
Mais c'est vrai que comme introduction de mouvement, c'est d'une originalité extraordinaire. C'est vraiment... très très imprévisible, d'autant plus que l'entrée du violon se fait avec un affaissement du tempo, un retour, un rappel évidemment cyclique comme on disait du premier thème. C'est les choses se représentent.
Ça va
à
une allure
façon...
folle tout ça, surtout.
Puis surtout inattendu, il n'y a pas de raison de revenir là, et pourtant la continuité n'est pas du tout mise en cause. On a l'impression d'entendre ce qui est logique d'entendre à cet instant.
C'est-à-dire un final continu et qui va jusqu'à un climax qui fait tant de soucis.
Et peut-être on peut montrer l'évolution du motif.
Parce que Dieu sait que dans le dernier mouvement, encore, il y a un kaléidoscope de caractère qui est vraiment, vraiment étonnant.
Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire ?
On fait la première exposition de...
Absolument.
L'air de rien, on retrouve ce motif sous une forme complètement différente. D'ailleurs, l'oreille n'a même pas vraiment besoin de faire le rapprochement. Troisième version, en quelque sorte. Et jusqu'à présenter le motif avec un tempo beaucoup, beaucoup plus long, en augmentation. Jusqu'à la fin du mouvement, où le motif en fait sert à conclure.
Marie- Marina et Florent, ce qui me frappe encore une fois dans ce dernier mouvement, c'est qu'on a les deux types d'univers, le déhanché langoureux, qui tout d'un coup se transforme en une espèce de caricature de clown ou d'acrobate, je ne sais pas. Et il passe constamment de l'un à l'autre, dans les trois mouvements, au fond, d'une certaine manière.
Ben oui, c'est ce côté fantasque, ce côté donc caractériel, enfin qui change d'humeur extrêmement vite, qui est finalement assez typique d'un certain Debussy. On a ça aussi dans, par exemple, le deuxième mouvement du Quatuor à cordes.
Assez vif et bien rythmé, c'est le deuxième mouvement du Quatuor à cordes de Claude Debussy, unique Quatuor à cordes, qui a été dédié finalement au Quatuor Isaïe, après avoir essayé de le dédier à Chausson, qu'il n'avait pas beaucoup aimé. Et Debussy avait fait une promesse d'en écrire un deuxième, et il n'a jamais fait. C'est un peu dommage pour les quartettistes. Donc tout ça pour nous dire qu'on est tout de même dans un univers Debussy de très grand technicien. Il avait même rêvé de faire une sorte de concerto sous la forme des nocturnes pour Eugène Ysaÿe.
Oui, donc c'est ça, il avait une relation avec Ysaÿe très très proche. D'ailleurs, Ysaÿe aussi en tant que chef d'orchestre pour les nocturnes, mais premier violon aussi. Mais là, dans ce contexte-là, on a vraiment donc, les modes de jeu, on a ces motifs qui tournent, tournoient sur eux-mêmes, tournoiement. Et puis aussi cette sensualité du thème. Donc, on retrouve bien cette empreinte.
Et c'était le quatuor Ysaÿe moderne qui vient d'arrêter, d'ailleurs, après 30 ans de carrière, je crois, ils viennent d'arrêter. On a aussi, à propos de ce final, envie d'écouter un peu de la mer. Pourquoi, Marina ?
Je pense que dans l'extrait qu'on a choisi, Jeu de vagues, il y a vraiment ces espèces d'amorces avant un vrai jaillissement. Donc cette composition en esquisse, en fait, de gestes qui essayent de sortir d'un certain blocage et puis qui d'un coup jaillissent.
C'est-à-dire qu'on n'a pas l'élément thématique tout de suite.
Oui, c'est ça.
Il se construit, mais on a
pas
ça.
Pas à pas, c'est une musique qu'on écoute qu'on suit à la trace.
Mais cette technique qui consiste à faire un thème en le montrant peu à peu apparaître, ça existe dans le final de la première de Beethoven, ça existe dans la première des pièces opus 6 de Berg, le thème se construit. Quand il est construit, il faut peut-être déjà le quitter. Donc c'est une technique que Debussy a raffinée tout de même avec des tout petits éléments. Et pour ce qui est des jeux de vagues de Claude Debussy.
Et puis, il me semble que justement, en Jeu de vagues, il y a une certaine, une résurgence de figuralisme aussi. Ce tournoiement peut être aussi assimilé à une certaine houle de mer. Donc, même si Debussy a, dans ce contexte-là, une relation assez distancée avec quelque chose qui serait figuraliste, on peut quand même y voir une esquisse.
Oui, d'autant que quand il se battait pour trouver un final à cette sonate, il était au bord de la mer.
Voilà.
Une fois de plus, parce que c'était essentiel pour lui, pour se ressourcer. Il a des mots très durs sur les gens qui vont se baigner, en disant qu'avec des gens comme ça, des gens aussi vilains, on s'étonne que le soleil se couche toujours au même endroit, qu'il n'aille pas un peu plus loin. Il était très caustique là-dessus. Alors, c'est Jeu de vagues, c'est l'orchestre du Festival de Lucerne, sous la direction de Claudio Abbado, et c'est en concert. Début de Jeu de vagues, extrait de La mer de Claude Debussy, l'orchestre du Festival de Lucerne sous la direction de Claudio Abbado, c'est en concert. Alors maintenant est venu le moment de satisfaire un des désirs de Marina et de Florent, qui est d'écouter une version historique de cette sonate de Debussy, qu'on a essayé d'éclairer de toutes sortes de manières différentes, non pas tant en analysant, mais en montrant quelques constantes dans l'imagination de Debussy qu'on trouve dans d'autres œuvres, ou pour piano, ou pour musique de chambre, ou pour orchestre. Et alors, on a envie de vous faire écouter, ils ont envie de vous faire écouter, et moi je suis d'accord parce que j'aime beaucoup ces musiciens, il s'agit de Zino Francescatti et de Robert Casadesus. Alors, Zino Francescatti, c'est un violoniste qui a fait...
Marseillais.
Ah, je savais bien qu'elle finirait par avouer
que j'ai croisé quand j'avais 5 ou 6 ans.
Alors, il a fait surtout une grande carrière aux États-Unis.
Oui, incroyable. Un son lumineux, solaire, entre autres. Et je trouve que c'est une version très très réussie. Il y a bien sûr des très très belles versions qu'on a la chance d'avoir avec Thibaut Cortot, Joseph Tigeti et Bartok en concert.
Grumio aussi.
Oui, enfin il y en aurait vraiment...
Il y a plein.
Il y en a plusieurs qui sont vraiment remarquables.
Alors, ici c'est donc cette sonate. Le violoniste Zino Francescatti, le pianiste, c'est son pianiste favori, Robert Casadesus, et ça a été enregistré le 26 avril 1946. Glorieuse année.
Thank you.
Enregistré le 26 avril 1946, c'était la sonate pour violon et piano de Claude Debussy par Zino Francescatti et Robert Casadesus. Merci Marina Chiche.
Merci et à bientôt. Jean-Pierre.
Merci Florent Boffard. Merci. Et à bientôt. Nous étions en compagnie de Pierrick Charles, Véronique Cardilès, Éric Lancien, Sacha Tropp et c'est le docteur Léo Duroy qui avait soigné le piano. Bon week-end à l'écoute de France Musique et à vendredi prochain.